Place Info.
Bonsoir Emmanuel Macron, attendu à la tribune de l'ONU sur le climat. Trump muet sur la question. Édouard Philippe qui renonce à son coup de rabot sur les seniors. Et la PMA qui entre à l'Assemblée nationale. C'est dans les informés avec Roselyne Fèvre, chef du service politique de France 24, avec Saveria Rojec, journaliste politique, avec Yasmina Jaffar, journaliste fondatrice de laruchemedia.com, et avec Albert Zenou, rédacteur en chef du service politique du Figaro. Bonsoir à tous. Nous sommes ensemble jusqu'à 21h à la radio et à la TV sur le canal 27 de la TNT. Emmanuel Macron doit donc s'exprimer tout à l'heure à la tribune de l'ONU à New York. Nous serons en direct pour écouter le discours du chef de l'État. Bonsoir à vous, Julie-Marie Lecomte.
Bonsoir.
Envoyé spécial de France Info à New York. Julie, est-ce que vous savez ce que peut annoncer Emmanuel Macron ?
Écoutez, plutôt que des annonces, c'est davantage un plaidoyer auquel il faut s'attendre. Ce discours, Emmanuel Macron voudrait qu'il marque les esprits. Ce matin, il avait des rendez-vous, notamment avec Bill Gates et Mahmoud Abbas, le président de l'autorité palestinienne. Mais à partir de la mi-journée, il a libéré son agenda. Il s'est enfermé avec ses conseillers dans le bureau de la représentation française au troisième étage du bâtiment des conférences pour peaufiner son discours, le retoucher et l'amender. Alors, a priori, il y aura trois grands thèmes, la santé, la sécurité et le climat. La santé, notamment parce que la France accueille en octobre à Lyon une grande conférence pour reconstituer le Fonds mondial qui permet de lutter contre le sida, la tuberculose et le paludisme. Il faut mobiliser, il faut trouver 14 milliards de dollars. Je vous parlais de Bill Gates. C'est pour cela qu'Emmanuel Macron a petit déjeuner avec l'ancien PDG de Microsoft ce matin, puisqu'il est à la tête de la plus grande fondation privée du monde. Deuxième thème, la sécurité. Emmanuel Macron intervient alors qu'il est entre ses deux rendez-vous sur le dossier iranien. Il a vu Hassan Rouhani hier soir. Il doit voir Donald Trump avant de redécoller pour Paris. Et puis, évidemment, le climat. Emmanuel Macron défend toujours son titre de champion de la Terre. Il estime que sa réunion d'hier sur l'Amazonie était un rendez-vous historique, que la dynamique est enclenchée. Mais comme hier, il devrait de nouveau mettre en garde contre ce qu'il considère comme un péril, l'inaction et le manque d'efficacité.
Encore un mot avec vous, Julie-Marie Lecomte, à propos du climat. Le chef de l'État n'a pas vraiment, on va dire, goûté la plainte déposée par Greta Thunberg, notamment contre la France.
Il a très mal pris, en fait. Le président français ne comprend pas l'attitude de la jeune femme. En fait, il trouve cela très injuste, confie un ministre qui l'accompagne. Si la France peut être poursuivie, c'est parce qu'elle reconnaît pleinement la Convention internationale des droits de l'enfant. Ce n'est le cas ni des États-Unis, ni de la Russie, ni de la Chine. Résultat, eux, ils ne peuvent pas être poursuivis et on va chercher un pays qui prend des engagements, déplore ce membre de la délégation. Greta Thunberg, le président de la République, l'aimait bien au début, ouais. Mais là, il ne la suit plus. Il estime que ses propositions désormais radicales sont de nature à antagoniser nos sociétés. C'est ce qu'il disait ce matin au micro d'Europe 1.
Allez, merci à vous, Julie, Marie, Lecomte, en direct du siège des Nations Unies à New York. Le discours d'Emmanuel Macron, c'est donc d'ici 21h. Depuis la tribune de l'ONU, nous ferons évidemment éminemment place au direct. Yasmina Jaffar, sur ce qui a été évoqué par Julie-Marie Lecomte, notamment l'attitude de Greta Thunberg, on en parle beaucoup aujourd'hui.
Oui, on en parle beaucoup et elle a pleuré, en effet. Elle a joué sur l'émotion, en effet. Emmanuel Macron a eu une phrase habituelle. Il avait dit lors d'un grand débat, rappelez-vous, je suis comme ça, je ne changerai pas. Voilà, il nous a habitués aux petites phrases. Il y avait eu une pause pendant un temps et là, il a expliqué qu'il fallait plutôt aller manifester en Pologne. Mais quelque part, je lui donne pas totalement tort sur la façon qu'il a de réagir quant à l'attitude un peu exagérée de Greta, parce que il y a
vous
une
injustice. Un peu exagérée pour vous.
Oui, un peu exagérée, totalement. Oui. Depuis le début, j'ai quand même toutes quelques réserves sur la personnalité.
Vous parlez quoi, des larmes ou de la plainte?
De la personnalité d'abord de Greta, de la façon dont elle a surgi dans le débat, de la manière organisée, marketée, dont tout ça existe, et aujourd'hui de la plainte et des larmes. Tout ça fait un petit peu théâtre, même si l'endroit de l'ONU ressemble à une arène, sortons un peu du théâtre et soyons dans l'enjeu concret. Et c'est vrai que la Chine et l'Inde a son lot de responsabilités et de créer une plainte comme celle-ci est un petit peu injuste. Donc Emmanuel Macron a raison de rappeler qu'il faut plutôt aller à l'école ou agir autrement que d'être dans la radicalité.
Saria Rejec, vous partagez le point de vue de Yasmine Jaffar, c'est sévère.
Oui, assez sévère. Je trouve surtout particulièrement injuste, il faut le rappeler, les tombereaux d'insultes et d'injures que subit cette pauvre jeune femme qui ne fait rien d'autre que d'avoir un discours plutôt volontariste
et alarmiste
en faveur du climat. Ce que nous dit aujourd'hui la Genèse Pandale, ce que nous disent les jeunes effectivement, ils nous disent qu'ils veulent des résultats. On s'attend, pour en revenir au début à ce que vous nous disiez, ce qu'on attend du discours d'Emmanuel Macron, effectivement on s'attend bien sûr à un discours de la part du président français, un discours très volontariste sur le climat, mais là force est de constater qu'il y a un réel décalage entre les discours très volontaristes du chef de l'État et les actes. La France aujourd'hui ne respecte pas l'accord de Paris sur le climat. Je rappelle que le sommet actuel de l'ONU, il est justement, c'est un sommet sur le climat pour sauver cet accord de Paris que la France elle-même ne respecte pas. Et donc, comme toujours, il y a un décalage entre le discours très volontariste du gouvernement et notamment du président de la République et les actes. Que fait la France pour réduire son bilan carbone? Elle fait la loi anti-gaspillage.
Albert Zienou, on ne compte n'y est pas au niveau français?
Le compte n'y est pas, mais on demande à des pays d'avoir des résultats immédiatement.
Immédiat, voilà.
C'est très très difficile, c'est voire impossible. Le climat, c'est sur du temps long. Alors, on peut lancer des actions, on peut faire des choses. Moi, ce qui m'étonne toujours, c'est que autant de chefs d'État soient agenouillés. Agenouillée devant Greta Thunberg. Oui. Enfin, c'est la figure aujourd'hui de la sainte dans un siècle, dans un Occident qui est de plus en plus sécularisé. Et puis, alors, on ne peut que baisser la tête et puis faire
ça
un acte de contrition.
Vous avez l'impression que tout le monde courbe les Chines, c'est ça?
Tout le monde courbe les
Chines. Étonnante.
Elle représente quelque chose, oui, mais c'est le règne de l'émotion absolue. Alors, elle se met à pleurer. Elle utilise des mots forts, mais pour autant, est-ce que c'est constructif. Alors, on ne demande pas à une enfant de 16 ans, enfin, une adolescente de 16 ans, d'être constructive et d'avoir des idées surtout, mais interpeller comme ça, et non. Que derrière, tout le monde ne puisse que courber les chines. Bon, c'est un peu...
Courber les chines, nous dit Albert Zienou. On va rester un petit peu sur ces questions. On va évoquer évidemment Donald Trump qui n'a pas dit un mot sur le climat. Et on n'a pas entendu encore Roselyne Fèvre sur cette question de la prestation de Greta Thunberg hier. Pour l'heure 20h10 sur France Info, rappel de l'info avec vous, Jules Dekis.
Avant Emmanuel Macron, dans quelques minutes, Donald Trump a donc livré son discours à la tribune des Nations Unies. Il affirme qu'il ne lèvera pas les sanctions contre l'Iran tant que le pays, qu'il accuse de financer le terrorisme, ne changera pas d'attitude. Le président iranien Hassan Rouhani lui répond, lui se dit ouvert à des discussions, mais uniquement si les États-Unis allègent la pression économique qu'ils imposent au pays. Le début de l'examen de la loi de bioéthique à l'Assemblée nationale, 3 ministres pour la défendre, notamment celle de la santé Agnès Buzyn. Devant les députés, elle affirme que ce projet qui comporte la PMA pour toutes les femmes est une chance, un privilège pour notre société. Les débats vont durer 3 semaines avant un vote prévu pour le 15 octobre. C'est un exemple de plus dans la crise dans les urgences. Le service de l'hôpital du Bailleul dans la Sarthe sera fermé à partir de ce soir, toutes les nuits pendant 3 semaines. Il y a une pénurie de médecins urgentistes. 9 postes sont vacants d'après la direction. Le tribunal de commerce d'Evry a terminé ce soir l'examen des dossiers de reprise des glazures. Il donnera sa décision vendredi. Si aucun repreneur n'est choisi, la compagnie aérienne placée en cessation de paiement pourrait arrêter son activité immédiatement. Elle emploie près de 1200 personnes. Et puis la 7e journée de Ligue 1 de football s'ouvre avec Dijon-Marseille. On joue le début de la deuxième mi-temps. Il y a toujours 0-0. Dans une petite heure maintenant, c'est le derby de la Côte d'Azur. Monaco reçoit Nice.
France Info. Et tout est plus clair.
20h, 21h, les informés, Jean-François Aquili.
Jules Dekis le disait à l'instant, le discours d'Emmanuel Macron ne devrait plus tarder. À propos de Greta Thunberg, écoutez ce que Ségolène Royal disait d'elle ce matin. Elle a volé littéralement à son secours sur France Info.
Elle est extraordinaire. Elle est extraordinaire et l'ensemble des critiques qui lui sont adressées sont parfaitement déplacées. Parce que, au fond, si certains estiment nécessaire de la critiquer, c'est qu'ils sont mal à l'aise. ils sont mal à l'aise parce qu'elle dit la vérité. Elle dit la vérité avec sa jeunesse. Elle a une force d'élocution, d'authenticité, de colère qui correspond exactement à la réalité. C'est pas son rôle d'apporter des solutions. C'est le rôle des dirigeants du monde entier, de tous ceux qui ont la capacité d'agir.
Rosine Fèvre, vous partagez le point de vue de désormais de l'ambassadrice des pôles hein, et présidente de l'ONG des États-Unis.
Un petit peu plus mitigée qu'elle, je pense qu'elle est Greta Thunberg est un peu dans ce qu'on appelle l'éco-anxiété. Elle est un peu anxiogène. Elle dramatise bien sûr les enjeux, mais elle a un rôle et ce rôle-là, elle l'a compris. On est dans la dictature de l'émotion aujourd'hui et l'émotionnel prend tout le reste. Et si elle peut effectivement faire bouger les ligne, elle va pas apporter de méthode, elle va pas apporter de solution, elle est un lanceur d'alerte comme d'autres l'ont été dans leurs différents secteurs, je pense à Snowden également. Et je voudrais rajouter qu'elle peut porter plainte uniquement sur les pays qui ont ratifié l'accord de.
C'est important de le préciser.
Voilà, c'est pour ça qu'elle ne peut pas. Donc c'est pour ça qu'elle ne peut pas porter plainte contre les deux pollueurs principaux, enfin les plus gros pollueurs, c'est-à-dire les États-Unis. Et la Chine. Et alors, voilà, ce que je voudrais peut-être rajouter, c'est qu'aujourd'hui, il va falloir nous expliquer comment, quelle méthode on va avoir, dans le fond. Parce que les pays se rejettent la patate chose en disant, c'est à toi de faire des efforts. Ben non, c'est à toi. L'Allemagne dit, bon, en 2038, j'arrête les centrales à charbon, donc la lignite, qui est quand même le truc le plus dégueulasse, pardonnez-moi. Les Polonais charbonnent, l'Inde nous dit qu'ils sont pauvres, donc ils peuvent faire autrement. Et Donald Trump dit, ben oui, les Chinois polluent, ils veulent pas faire d'efforts, donc s'ils font pas d'efforts, pourquoi j'en ferais ?
Et vous avez raison de le préciser, Roselyne Fèvre, la patate va devenir de plus en plus chaude. Vous évoquez le président des États-Unis. Donald Trump, donc, n'a pas dit un mot sur le climat, éventé plutôt en lieu et place le patriotisme à la sauce américaine.
La vérité est évidente si l'on veut la liberté. Soyez fiers de votre pays. Si vous voulez la démocratie, préservez votre souveraineté. Si vous voulez la paix, aimez votre nation. Les dirigeants sages donnent toujours la priorité au bien-être de leur peuple, de leur nation, avant tout. L'avenir n'appartient pas aux mondialistes. L'avenir appartient aux patriotes. L'avenir appartient aux nations souveraines, indépendantes, qui protègent leurs citoyens, respectent leurs voisins, honorent les différences qui font que chaque pays est unique.
Yasmina Jaffar, c'est patriote contre mondialiste.
Alors, j'indique à Monsieur Trump qu'on peut être mondialiste et patriote, c'est-à-dire qu'on peut aussi aimer notre pays et avoir
c'est pas l'un contre l'autre pour vous, hein.
Ouais. Non, je pense qu'on peut être un peu des deux. Seulement, c'est vrai que Monsieur Trump a l'habitude de la provocation et de l'attitude un petit peu rapide. Avec il considère un petit peu que tout ça est une blague. Il disait aux gens de l'ONU en les ringardisant que nous ne servons plus à rien et que finalement maintenant c'est à l'échelle individuelle qu'il faut faire les choses. Donc tout ça est une farce pour lui. Ça ne l'intéresse pas de parler réellement du climat. Il a parlé hier d'eau, de si l'eau est bonne, il minimise la chose avec des termes qui sont comme quelqu'un qui passait par là et qui a vu de la lumière, en accusant les autres, en tout cas les personnalités de l'ONU, de ne pas faire ce qu'il faut et que lui a toutes les solutions. Ce n'est que de la provocation, et c'est du cinéma et un show.
C'est un certain
en fait,
pour
il s'adresse aux Américains.
Exactement.
Il parle à son électorat. Savaria Rojek, c'est America First, hein.
Oui, mais il faut pas oublier, en fait, ce discours, il faut l'entendre à l'aune de la période actuelle aux États-Unis, c'est-à-dire que Donald Trump est en campagne électorale.
Il parle toujours à son
électorat. Surtout à l'heure à laquelle il a fait ce discours, il s'adresse vraiment aux Américains. Donc, il fait un discours, il fait du Trump. Il fait un discours nationaliste, il attaque l'Iran, la Chine. Mais ce discours extrême, à mon sens, ne veut pas dire non plus qu'il n'y aura pas d'avancée du tout. Parce qu'il faut se rappeler, par exemple, l'exemple de la Corée du Nord. La Corée du Nord, il disait, je vais rayer ce pays de la carte. Ça ne l'a pas empêché, quelques mois plus tard, de rencontrer le leader nord-coréen. Et voilà, de faire plusieurs rencontres et de laisser la crise finalement s'apaiser.
Pour l'instant, ça ne marche pas avec l'Iran, cette affaire.
Non, mais ce que je veux dire, c'est que voilà, on ne sait pas si dans quelques heures, il ne va pas finalement avoir une rencontre. C'est-à-dire que le discours très martial qui s'adressait avant tout au peuple américain...
Pour l'instant, il est dans la menace.
Il provoque.
Ouais. Il fait du Trump.
Albert Zenou, les patriotes contre les mondialistes, quelque part, à front renversé et en bougeant un petit peu les lignes, ça rappelle un petit peu les libéraux contre les populistes d'Emmanuel Macron.
Oui, il y a une volonté un peu de stigmatiser l'autre camp, de faire une dichotomie précise, manichéenne, entre deux oppositions qui se veulent irréconciliables. Alors, c'est facile, hein, on fait les patriotes contre les mondialistes, mais comme disait Yasmina, on peut être à la fois patriote et mondialiste. Mais en gardant en tête que la mondialisation, ça n'est pas une vertu partagée et encouragée par tout le monde. Il y a quand même encore beaucoup de gens qui vivent la mondialisation de façon très néfaste, très difficile, pour qui c'est une contrainte qui pèse sur eux, sur leur emploi, sur leur avenir. Et donc, ça réveille aussi des considérations aussi bien chez les Américains, mais chez les Européens, puisqu'on voit bien que en Europe, il y a beaucoup de pays qui sont traversés par ces courants.
Oui, ce sont même des lignes de fracture.
Fortes.
Mais alors, rien sur le climat. Et donc, dans la vision de Trump, hein, le temps des abus de la Chine, puisqu'il parle de ça, en fait, en creux, en matière commerciale et révolue, Pékin, dit-il, doit protéger le mode de vie démocratique de Hong Kong. Roselyne Fèvre, ce match mondial se situe au niveau des deux géants. Nous avons la sensation de ne pas peser grand-chose dans cette affaire.
Non, bien sûr. Non, face à la Chine et aux États-Unis, nous sommes des nains diplomatiques, des nains et économiques. Alors, on peut faire valoir effectivement que on fait les messages sur l'humanisme, sur les valeurs de la France. Donc on essaye d'avoir effectivement, comme l'a fait Emmanuel Macron à Biarritz, une espèce de peser, de faire le ce qu'on appelle le missi dominici. C'est pour l'instant ce qui reste à la France, de pouvoir à un moment ou un autre compter, en espérant non pas peser entre ces géants, ni s'interférer entre la guerre commerciale entre les Américains et les Chinois, parce que là, pour le coup, on est évacué d'un revers de main. Mais peut-être avec l'Iran, pouvoir...
Alors justement, souvenez-vous, Roselyne, nous nous posions la question à l'époque de ce sommet, ce G7 à Biarritz. Nous nous demandions quel serait l'effet de cette négociation surprise, hein, organisée par Emmanuel Macron avec les Iraniens. On avait dit à l'époque, attendons. Laissons les choses se décanter, et on le voit ce soir.
Mais entre-temps, il y a eu l'attaque en Arabie Saoudite aussi. Voilà. Allez, je vais radicaliser les positions de
Donald Trump. Marquons une pause. 20h et 20 minutes sur France Info. Rappel de l'info avec vous, Jules Dekis.
C'est au tour de Thomas Cook France de demander son placement en redressement judiciaire. La filiale française du voyagiste britannique qui fait faillite devrait se déclarer en cessation de paiement jeudi après un comité central d'entreprise. Ce sera ensuite au tribunal de commerce de Nanterre de trouver un éventuel repreneur. Plusieurs acteurs dans le secteur du tourisme ont déjà fait part de leur intérêt, assure Thomas Cook. Le groupe en place emploie 780 personnes en France. Boris Johnson restera en poste, il le dit, il le répète, malgré les appels à la démission de son opposition. La Cour suprême britannique inflige un nouveau revers au Premier ministre. Sa décision de suspendre le Parlement avant un Brexit le 31 octobre est jugée illégale. Les députés vont donc pouvoir reprendre leur activité dès demain. D'après la CGT, 150 000 personnes ont défilé dans la rue aujourd'hui pour dénoncer la réforme des retraites. Le syndicat a appelé à la mobilisation, 12 300 personnes à Paris d'après un comptage indépendant pour France Info. La police en a compté 3 700 à Marseille, 3 200 à Lyon. Le gouvernement recule, il ne rabotera pas l'aide fiscale des personnes âgées pour l'emploi à domicile. Le Premier ministre l'a annoncé, déplorant un manque de concertation sur la question. Il espérait économiser 300 millions d'euros par an en ne conservant la mesure que pour les personnes âgées dépendantes. Et puis dès demain, à Paris, il sera possible d'acheter et de valider son ticket de métro grâce à son téléphone portable. Il suffira de télécharger pour cela une application NavigoLab, mais seuls les détenteurs de smartphones sous Android pourront le faire puisqu'Apple a refusé de participer au projet.
France Info, et tout est plus clair.
20h, 21h, les informés, Jean-François Aquili.
Je résume, Trump, pas un mot sur le climat. Bolsonaro, le président brésilien, il est faux de dire que l'Amazonie appartient au patrimoine de l'humanité. C'est une déclaration assez spectaculaire. Mais à quoi servent donc ces sommets internationaux? Question posée tout à l'heure à David Cormand, le secrétaire national d'Europe Écologie Les Verts. Il était l'invité du 18h50 France Info.
On se demande, après Moi, je suis toujours partagé parce que ça vaut la peine de réunir les grands de ce monde pour parler de ces sujets-là. Mais vous savez, sommet après sommet, il y a des concours d'éloquence. Alors, en l'occurrence, pas avec M. Trump, hein, qui a fait l'impasse sur le sujet du climat, mais on a du mal à voir les mesures contraignantes. Or, c'est de cela dont il s'agit maintenant. Il faut que les dirigeantes et les dirigeants de la planète comprennent que l'enjeu majeur des temps qui viennent, c'est de faire en sorte que la planète reste hospitalière à la vie.
Yasmina Jaffar, un leader écologiste en France, donc, M. Cormand, sceptique sur la portée de ces climats, de ces sommets qui mettent le climat en exergue.
Exactement, ça rappelle ce que je disais tout à l'heure par rapport à l'attitude de Donald Trump qui regarde ce sommet en leur disant aussi quasiment les yeux dans les yeux que tout ça ne sert à rien. Donc ça, ils peuvent être un peu d'accord, même s'il est assez critique quand même avec l'attitude de Donald Trump. Oui, c'est assez étonnant, ça rebat les cartes et on se demande en effet, mais depuis Biarritz, on se demande en effet, à quoi servent toutes ces réunions et est-ce que réellement il y a un impact et est-ce qu'il y a une compréhension, il y a eu une compréhension de la part du peuple et de la part des à l'échelle individuelle de prise de conscience du problème et de notre planète qui brûle, mais est-ce que la chose a été prise en conscience de la part des leaders de ce monde? Je ne suis pas convaincue. Emmanuel Macron met énormément d'énergie pour faire entendre qu'il n'est plus seulement le leader de cette idée auteur du climat de l'Europe, mais maintenant du monde. C'est une façon d'exister parce que économiquement c'est très dur d'exister face à deux ténors comme la Chine ou les États-Unis, mais on a du mal vraiment à...
Ça va y arriver. C'est vrai que, c'était pour rebondir sur ce que vous disiez également, Emmanuel Macron, il tente, et on l'a vu de façon assez spectaculaire... Oui, absolument. Oui. On l'a vu de façon assez spectaculaire à Biarritz lors du sommet du G7. Il essaye vraiment de déployer tout un volontarisme, tout un activisme pour ça. C'était plutôt couronné de succès à Biarritz. Ça l'est moins lors de ce sommet à New York.
Couronné de succès dans la com.
Dans les réunions avec Rouhani, les déclarations de Donald Trump ont été plutôt apaisantes en faveur de l'Iran. Ce n'était qu'il n'y a qu'un mois. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, le problème, c'est que dans le discours de Donald Trump, il dit, je n'ai pas besoin de médiateur avec l'Iran. C'est ce qu'il dit à Angela Merkel, qui elle aussi a vu le président Rouhani. C'est ce qu'il dit à Emmanuel Macron. La clé de la crise iranienne aujourd'hui, c'est Donald Trump.
Oui, il n'a pas besoin de nous.
Il a pas besoin de
jouer à suspense en plus. Albert Zenou, pour revenir sur le côté non contraignant que dénonce Monsieur David Cormand. Au fond, il dit que ça ne sert à rien, puis tant qu'il n'y a pas des mesures contraignantes à l'égard des États concernés, finalement, la seule contrainte, c'est l'opinion publique, et je boucle la boucle avec vous, c'est donc Greta Thunberg.
Non, c'est un raccourci.
Dont l'action serait utile, finalement, parce qu'elle contraint les grands de ce monde à réagir.
Elle oblige les gens à se prosterner devant elle. Oui,
je suis d'accord. C'est un raccourci énorme.
Le problème avec les écologistes politiques, mais Greta Thunberg est aussi une écologiste politique, enfin, même si elle se défend d'en faire. C'est qu'ils ne sont jamais contents. C'est-à-dire que, est-ce que c'est utile ou pas, c'est un autre problème, mais ils ne sont jamais satisfaits par les mesures. C'est toujours, on n'arrivera jamais à aller...
Parce que les pays ne se mettent pas d'accord, c'est ça le problème.
Les pays ne se mettent pas d'accord, et parce que c'est compliqué, mais il faut accepter le temps long, il faut accepter la rationalité. Ouais. On est dans l'émotion, il faut, à la limite, faire un Greta Thunberg.
Quand l'Allemagne dit qu'elle va, qu'elle va arrêter en 2038...
En 2015, on s'est mis d'accord, on a signé l'accord de Paris. Aujourd'hui, la France, notre pays, ne respecte pas cet accord.
Oui. C'est vrai. Mais ça, c'est le problème des dirigeants actuels. Il y avait quatre. Il faut aussi prendre des mesures qui sont tenables.
Non, mais par exemple, l'Allemagne, c'est un peu décevant quand même de dire qu'on va fermer les centrales à charbon, enfin, les centrales de lignite, qui est vraiment le truc le plus sale du charbon en 2038.
C'est une hypocrisie totale, puisqu'ils ont fermé les centrales nucléaires, mais ils nous achètent de l'électricité qui est faux produit.
Et pour répondre à la question de Jean-François sur, je citerai Hubert Védrine là-dessus, qui passe son temps à dire, mais dans le fond, la communauté internationale, mais ça veut rien dire. Et l'ONU, les grands machins, les G7, c'est juste une enceinte pour les photos. Et c'est pas là que les choses se décident, bien évidemment.
Oui, Yasmina Jaffar, sur le côté lanceur d'alerte, finalement, de certaines voix fortes, finalement.
Elle sert à ça.
C'est audible, quand même.
Oui, c'est audible et c'est une lanceuse d'alerte, simplement. Ça ne peut pas être un modèle. Elle ne peut pas être érigée comme quelqu'un contre qui on ne peut rien dire. On peut aussi la regarder avec critique en disant peut-être que là, il y a un peu de catastrophisme. Donc, il faut se rendre compte qu'en effet, quand la politique ne fait rien, ça laisse de la place à l'émotion. Alors, la politique doit réagir en disant, il y a une vraie jeunesse, parce que Greta, c'est Greta, mais il y a une vraie jeunesse qui réagit.
Et quand c'est Gwen Royal qui dit qu'il y a des tombereaux d'insultes et d'insultes.
Oui, c'est vrai. C'est vrai.
Elle devient une personne publique.
Et une cible.
Et donc, comme toutes les personnes publiques, et nous aussi ce soir, si on peut aussi recevoir des tombereaux d'injures. Enfin, elle aussi reçoit des tombereaux d'injures. Alors, c'est dommage, c'est vrai qu'elle fout un peu
le jeton quand même.
Bah, oui, non, voilà, mais c'est à la hauteur de sa rigidité.
Pas tous en même temps. Un mot rapide, Yasmina Jaffar, vraiment une seconde, allez.
C'est à la hauteur de sa rigidité. Ce qu'il faut voir, c'est que derrière, il y a un vrai mouvement de la jeunesse qui réagit. Elle n'est pas le seul modèle. Ouais.
Allez, nous attendons toujours le discours d'Emmanuel Macron à la tribune des Nations Unies. Nous allons marquer une pause sur France Info avec la météo, le rappel de l'info. Et on se retrouve dans quelques minutes pour la suite de ces informés. À tout de suite.
France Culture présente l'exposition 20 ans, les acquisitions du musée du Quai Branly Jacques Chirac. Interroger l'essence même d'un musée. Pourquoi acquérir des œuvres et à qui les montrer? Quel doit être son rôle dans le paysage des collections nationales? Telles sont les questions que pose l'exposition. 20 ans, les acquisitions du musée du Quai Branly Jacques Chirac. À découvrir du 24 septembre au 26 janvier à Paris. Un partenariat Radio France. Politique,
enquête,
sport,
invité,
culture,
interview,
économie. Pour l'info 24h sur 24, France Info, et tout est plus clair. France Info Météo, avec Pilote, fabricant de stylos innovants et de gammes respectueuses de l'environnement. Pour l'école, la maison ou le bureau, retrouvez nos gammes éco-conçues sur pilotepen.fr.
La météo, les prévisions avec vous, Élodie Calac pour Météo France.
De nouvelles pluies pour demain. Entre le Finistère, la Vendée, les Charentes, le nord de l'Aquitaine, une perturbation arrivera dès le matin avec de la pluie et du vent. Au fil des heures, ce temps glissera vers l'intérieur de la Bretagne, Poitou-Charentes, le centre, l'Aquitaine, l'ouest du massif central. Ailleurs, large avantage pour les nuages, des averses, surtout au nord de la Seine et sur la Normandie, parfois avec un coup de tonnerre. Ça n'empêchera pas quelques rayons de soleil de temps en temps. Il y aura du vent également. Pour avoir plus de soleil, direction le sud-est. Quelques passages nuageux le matin, mais c'est bien le soleil qui s'imposera. Le matin, pas moins de 10 degrés à Aurillac, 12 à Strasbourg, 13 à Lille et à Lyon, 14 degrés à Paris, à Rennes, 17 à La Rochelle et à Marseille, 18 à Nice. L'après-midi, on sera deux saisons ou un peu en dessous, 17 à 23 degrés, 19 à Cherbourg, Paris, Mulhouse, Bourges et Cognac, 22 à Lyon et à Bayonne. Il fera plus chaud autour de la Méditerranée, 25 à 28 degrés, les 28 à Nice.
Minutes sur France Info. Toute l'info avec vous. Bonsoir Olivia Ferrandi.
Bonsoir Jean-François, bonsoir à tous. Plus de 12 000 personnes à Paris, 3 700 à Marseille, 3 200 à Lyon. Les manifestants ont donné de la voix aujourd'hui encore pour cette nouvelle journée d'opposition à la réforme des retraites. Réforme qui prévoit la suppression des 42 régimes existants au profit d'un régime universel à points. Par ailleurs, les cheminots de Sudrail et les routiers de FO Transport ont annoncé aujourd'hui qu'ils allaient rejoindre le mouvement de grève illimité lancé par les syndicats de la RATP à partir du 5 décembre. Prochain. Fabien Dumas est le secrétaire fédéral du syndicat Sudrail.
On parle de convergence des luttes tout le temps. Nous convergeons vers nos collègues de la RATP et nous déposerons nous aussi un préavis de grève reconductible à partir du 5 décembre. Ça fait que la SNCF et la RATP seront en grève le 5 décembre. Et on est tous en colère, tous les services publics sont attaqués, tous les travailleurs de ce pays subissent des attaques. Et le dénominateur commun, c'est le gouvernement Philippe et Macron et leur politique. Donc, au lieu d'aller en ordre dispersé, c'est tous ensemble qu'on va gagner. Donc le 5, on bloque tout et on exige le retrait de la réforme des retraites.
Le représentant du syndicat Sudrail, Fabien Dumas. Le début cet après-midi à l'Assemblée du débat sur l'ouverture de la PMA à toutes les femmes en France. C'est la mesure phare du projet de loi bioéthique, un texte qui divise au sein de chaque parti. C'est une chance et même un privilège pour notre société, a défendu aujourd'hui la ministre Agnès Buzyn. L'affiche de la discorde entre la FCPE et le ministre de l'Éducation nationale, l'affiche de campagne pour les élections des représentants de parents d'élèves dans les écoles, collèges et lycées. Elles auront lieu mi-octobre. L'affiche représente une femme voilée accompagnant une sortie scolaire. Le ministre parle d'erreurs regrettables. La FCPE assure défendre une conception de la laïcité qui, dit-elle, n'exclut pas. Nouvelle perquisition aujourd'hui au domicile parisien du financier américain Jeffrey Epstein. Accusé d'abus sexuels sur mineurs, il s'était suicidé début août aux États-Unis en prison. Une enquête est également menée en France. Les policiers français s'intéressent à l'un des amis du millionnaire, le directeur d'une agence de mannequins qui aurait pu jouer les rabatteurs. L'agence a été perquisitionnée aujourd'hui également à Paris. À l'étranger, Donald Trump menace l'Iran de nouvelles sanctions si jamais Téhéran, dit-il, ne change pas d'attitude. Le président américain s'est exprimé ainsi aujourd'hui à la tribune des Nations Unies pour l'Assemblée générale de l'ONU. Emmanuel Macron doit s'exprimer dans les minutes qui viennent. En Grande-Bretagne, les travaillistes appellent à la démission de Boris Johnson. La suspension du Parlement, décidée par le Premier ministre, a été jugée illégale aujourd'hui. Le Parlement reprendra donc ses travaux dès demain matin. Le corps de Franco sera exhumé pour être enterré dans un petit cimetière. La Cour suprême espagnole donne son autorisation aujourd'hui après avoir rejeté les recours déposés par les descendants du dictateur. Le sport, quart de finale de l'Euro de volley à partir de 21h entre la France et l'Italie. Et puis deux matchs de la 7e journée de Ligue 1 de football. Dijon affronte Marseille en ce moment, 0-0 après 75 minutes de jeu. À partir de 21h, Monaco affrontera Nice. A noter que Neymar a été brièvement entendu par les policiers aujourd'hui après avoir donné une claque à un supporter rennais en avril dernier. 20h33, les informations.
20h, 21h. France Info, les informés, Jean-François Aquili.
La deuxième partie avec Roselyne Fèvre, chef du service politique de France 24, avec Saveria Rojek, journaliste politique, avec Yasmina Jaffar, journaliste fondatrice de laruchemedia.com, et Albert Zenou, rédacteur en chef du service politique du Figaro. Est-ce une reculade en bonne et due forme? Le gouvernement renonce à supprimer l'exonération fiscale accordée aux personnes âgées non dépendantes quand elles emploient une aide à domicile. Ça fait beaucoup de bruit, cette histoire. Annonce faite aujourd'hui par le Premier ministre en personne, Édouard Philippe, à l'Assemblée nationale.
Ces inquiétudes, je les ai entendues. Elles ont été relayées dès hier, notamment par les présidents Mignola et Lejean. Et ces inquiétudes, je les partage. C'est la raison pour laquelle, monsieur le député, j'ai demandé à la ministre du Travail de renoncer à cette mesure. Je veux donc rassurer les professionnels et les employeurs. Ces mesures n'entreront pas en vigueur.
Albert Zenou, est-ce que c'est une bonne décision?
Oui.
Oui.
Oui. Je dis oui tout de suite. C'était inévitable. Édouard Philippe a décidé rapidement de couper le problème et d'éteindre le feu le plus rapidement possible.
Oui, de clamper.
Oui. Le gouvernement a déjà un problème, et Macron lui-même avait un problème déjà avec les retraités. Et là, il en rajoutait encore une couche. C'est-à-dire qu'on revient sur... On sait très bien qu'en France, les problèmes fiscaux sont toujours de nature à enflammer les esprits, toucher au portefeuille. Et là, on se retrouve avec une décision que personne n'avait compris. On se demandait pourquoi. On nous disait que c'était pour économiser un peu d'argent, que ça coûterait pas si cher que ça pour les retraités concernés. Darmanin disait que c'était 17 euros, ça revenait à 17 euros par mois par retraité. Mais pourquoi y toucher?
Ce qui est une somme.
Pourquoi y toucher? Et donc cette reculade, elle montre une chose, c'est que il y a une sorte d'amateurisme. On lance des bouées d'essai comme ça, ça ne marche pas, mais on coupe le feu, mais pour autant les braises couvrent toujours. Je pense que le problème n'est pas entièrement clos. Il y aura toujours une suspicion au niveau
ça laisse des traces pour vous.
Ça va laisser des traces.
Roselyne Fèvre, pourquoi diable avoir pris une telle décision alors?
Moi, ce que je pense, c'est que c'est Bercy qui a toujours des boules puantes dans le budget à sortir. Et là, il y a les crânes d'œufs de Bercy qui ont sur leurs étagères et essaient de refiler à tous les gouvernements. Là, on pourrait rabioter. Et en fait, je pense que le sujet vient de là, parce que c'est pas possible.
Vous dites que l'imagination est à Bercy.
L'imagination très créative. Malheureusement,
c'est pas le travail qui était à la
manœuvre. Oui, mais bon, c'est souvent Bercy qui est...
C'est Matignon qui a
coupé court ce matin. Qui pilote et qui fait ses propositions, qui à chaque fois, les APL, c'était Bercy, c'est toujours des idées
contre la réalité.
Et après, ils se rendent compte que ça impacte effectivement les retraités. retraités. Là, on a appris de la bouche de M. Martinez qu'il y aurait 150 000 retraités dans la rue mardi prochain. Et puis surtout, les acteurs du secteur de l'aide à domicile. Donc, ce qu'ils pouvaient récupérer en matière de millions, parce que je crois que ça se chiffre en millions, 350 millions, ça ne valait pas le coût politique était mortifère.
Surtout que ça tombe à un moment assez extraordinaire quand on est en train de parler des retraites, quand on parle de l'acte 2, quand on entend depuis quelques semaines tout le gouvernement dire comme un seul homme, nous allons faire avec les Français et choisir de faire une mesure qui n'a aucun sens, un transfert en plus entre les retraités qui ont plus d'argent et les retraités qui en ont moins. Parlons plutôt de la dépendance, si on veut vraiment aider ceux qui en ont moins, faisons une vraie politique autour de la dépendance et non pas des choses étranges qu'on décide dans la nuit.
Ça va dire, Roger, qu'il y avait un petit message subliminal qu'ils tondent leur gazon tout seul. C'est un peu ça.
Oui, mais ils s'en sont déjà pris en plus aux retraités. Il faut se rappeler que la crise des gilets jaunes, c'était bien sûr le prix de l'essence, mais c'était aussi l'augmentation de la CSG pour les retraites. C'est brûlant électoralement le pouvoir d'achat des retraités en France et surtout dans le contexte actuel. C'est un peu, moi je l'analyse, c'est le principe de volonté contre le principe de réalité. La volonté, c'est de faire des économies, de réduire les déficits. La réalité, c'est la réalité politique. Un gouvernement qui ne veut surtout pas rallumer les braises. Alors, et effectivement, dans un contexte très particulier en ce moment, avec une mobilisation nationale
sur
les retraites.
La question, une telle décision part-elle de l'Élysée ou bien elle part-elle directement du ministère de l'économie et des finances?
Non, je pense qu'elle part entre Bercy. Muriel, les équipes de la maison
Bercy,
de travail
de Muriel Pénicaud, tout ça depuis de longues années.
Effectivement. Non, mais ce sont des mesures qui sont dans la liste des économies à faire ou des économies possibles et donc des niches à raboter. C'est une des niches. Voilà, c'est une des niches qui était possible.
Albert Zénou, pour bien comprendre la mécanique des choses, il y a quand même un sujet sensible qui s'appelle les gilets jaune, il y a un climat social pour le coup difficile dans ce pays. Ce sont typiquement des mesures qui sont, on va dire, susceptibles d'énerver les citoyens, les Français. Pourquoi diable sortent-elles? Je répète ma question.
Je pense que c'est comme pour la taxe carbone, comme pour toutes les niches qui veulent être rabotées. On s'aperçoit que tardivement, que en fait, ça met le feu aux poudres. Qu'il y a une espèce de déconnexion vis-à-vis des Français, vis-à-vis de ceux qui sont censés être dirigés. Et qui s'aperçoivent que ça ne va pas, que ce qui allait sans dire qu'une petite mesurette, on part d'un principe d'égalité, puisqu'il s'agissait de donner à tout le monde, à toutes les personnes en situation de dépendance, de bénéficier de cet allègement de charges, au profit seulement des plus de 70 ans. Mais on voit bien l'impréparation de ce.
Et puis certains pensent dans certaines têtes
ce
que
gouvernement marche sur des œufs, quand même.
Mais que les retraités ont des bas de laine. Oui. Ils ont de l'argent.
En plus, on donne l'exemple du jardinier, c'est un peu méprisant. Enfin, toutes les personnes de plus de 70 ans n'ont pas que des jardiniers à leur disposition. Enfin,
surtout
en appartement. Et donc, ça fait furieusement, on parlait d'un acte 2, ça fait furieusement acte 1. Un retour un peu en arrière.
C'est complètement. Donc, ce qui est intéressant,
et en même temps, il y a une espèce de chiracisation avec la volonté de tout de suite d'éteindre l'incendie.
Enfin, très rapidement, ce qui est intéressant, c'est qu'en plus, le début de la fronde, ils s'en sont rendus compte il y a 48 heures, et le début de la fronde, c'était justement des députés en marche qui ont commencé à dire, mais qu'est-ce que c'est que
Olivia Grégoire.
Voilà, exactement. Donc, en plus, le début de la fronde est venu de leur propre
camp. C'était dans la Une des Échos hier. Hein,
donc, allez, 20h40 sur France Info. Rappel de l'info avec vous, Jules De Kiss.
Donald Trump menace d'augmenter encore un peu plus la pression sur l'Iran. Tant que son attitude menaçante continuera, les sanctions ne seront pas levées, elles seront durcies, affirme le président américain à la tribune des Nations Unies. Le président iranien dit, lui, qu'il est prêt à dialoguer, mais si ces sanctions sont abaissées, l'Allemagne et la France veulent jouer les intermédiaires dans ce dossier. Emmanuel Macron doit prendre la parole dans les toutes prochaines minutes. La ministre de la Justice affirme porter la loi de bioéthique et l'extension de la PMA à toutes les femmes avec une certaine fierté. Tout comme ses homologues à la santé et à l'enseignement supérieur, elle a pris la parole devant les députés pour défendre ce projet de loi qui arrive au Parlement. La plupart des députés de droite s'y opposent. 3 semaines de débats sont prévues jusqu'à un vote le 15 octobre. Moins de gaspillage, plus de recyclage. Au Sénat, c'est le projet de loi pour une économie circulaire qui arrive. La mesure phare, c'est la consigne obligatoire des bouteilles en plastique d'ici quelques années. Y figurent aussi la lutte contre l'obsolescence programmée et l'interdiction de détruire des invendus. Globalement, un consensus droite-gauche se dégage au Parlement. Au moins 19 personnes meurent dans un violent séisme au Pakistan. Les secours s'affairent surtout dans la province du Cachemire, à l'est du pays. Et puis la France joue pour une place dans le dernier carré de l'Euro de volleyball. Ce soir, elle affronte l'un des favoris favoris, l'Italie. Début du match dans une petite vingtaine de minutes. Les Français ont battu les Italiens il y a une semaine, mais c'était dans un match de poule quasiment sans enjeu.
France Info. Et tout est plus clair.
20h, 21h, les informés, Jean-François Aquili.
Une chance et même un privilège pour notre société, c'est avec ces mots qu'Agnès Buzyn a défendu le projet de loi bioéthique et sa mesure phare sur la PMA étendue à toutes les femmes dont l'examen a débuté, levé de rideau si vous préférez, cet après-midi en première lecture à l'Assemblée nationale, devant un hémicycle d'ailleurs assez clairsemé. La ministre de la Santé a fustigé l'idée selon laquelle il pourrait y avoir un droit à l'enfant.
Il n'y a pas, il n'y a jamais eu et il n'y aura jamais de droit à l'enfant. Parler de droit à l'enfant, c'est insinuer que l'enfant serait dorénavant à la merci de toutes les fantaisies, qu'il serait le simple produit d'un caprice. Dire cela, c'est dénigrer le projet parental. Les familles monoparentales et homoparentales existent déjà. C'est un fait. Et il serait aussi hypocrite de ne pas le voir que de persister à ne pas les reconnaître. Ces familles sont issues de projets souvent très longs, avec des enfants qui sont ardemment désirés et des parents, nul ne s'en étonnera, qui sont des parents, tout simplement. Reconnaître la famille dans ce qu'elle a de divers, de pluriel et de riche, c'est ce que je vous propose.
Alors Savaria Rejec, ce que dit là la ministre, en l'occurrence, c'est qu'au fond, il n'y aurait pas d'extravagance à étendre la mesure à toutes les femmes, parce qu'au fond, ces situations existeraient déjà de fait dans tous les scénarios auxquels nous assistons de nos jours.
Oui, mais attention, je pense que pour le gouvernement, enfin en tout cas, moi c'est ce qu'on m'a signifié cet après-midi, ce n'est pas une question d'égalité des droits. Il se trouve que j'ai parlé de cette question et du projet de loi avec la porte-parole du gouvernement tout à l'heure, avec Sibeth Ndiaye. Elle m'a bien expliqué que le gouvernement, il présente ce texte comme le débat, ils veulent que le débat se porte sur l'éthique et pas sur l'extension des droits. C'est un débat éthique, aujourd'hui une avancée médicale qui permet ça et que la question que pose ce texte, c'est est-il éthique ou pas de l'étendre effectivement à toutes les femmes. C'est en tout cas sur ce terrain-là que le gouvernement veut que les débats soient. Voilà. Mmh. Ensuite, juste pour terminer, moi je pense qu'il est majeur que le débat ait lieu, que le débat ne soit pas plié, que le texte ne soit pas voté comme ça. C'est-à-dire qu'on soit pour ou qu'on soit contre, il est important que ce débat ait lieu parce que c'est une réforme majeure de société, c'est une réforme qui mérite qu'on entende tous les avis sur cette question. Et pour terminer, c'est effectivement une réforme de société qui sera marqueur du quinquennat. Et à mon avis, ça sera le marqueur du quinquennat d'Emmanuel Macron, comme le mariage pour tous a été le marqueur du quinquennat de François Hollande.
Berzénou, vous avez l'impression qu'il y a un réel débat sur la table ou qu'on va vraiment débattre, ça va durer quelques jours malgré tout, mais...
Parce
que les points de vue vont vraiment s'exprimer dans cette histoire.
On voit bien que
on a l'impression que le texte est déjà voté de fait.
A déjà été discuté pendant longtemps en commission. On voit bien que le gouvernement cherche à apaiser absolument le débat et en disant que on n'ouvre pas de nouveaux droits, mais on reste uniquement sur le plan de l'éthique. Bon, c'est un peu court. Bien sûr que c'est une ouverture de nouveaux droits. Il y a une volonté de donner aux femmes homosexuelles, aux couples homosexuels féminins, la possibilité d'avoir des enfants. Bon, ça c'est évident. Est-ce que ça restera comme un marqueur sociétal du quinquennat?
Difficile de le jauger à l'avance.
Mais on voit aujourd'hui que les discussions à l'Assemblée, un hémicycle.
Je vous ai vu faire un signe quand j'ai précisé que l'hémicycle était clairsemé.
Oui, il était très clairsemé, c'est très étonnant.
Oui. On y voit un signe.
Oui, on y voit un signe que, le débat aujourd'hui est compliqué. On voit bien que à droite, il y a un embarras chez certains députés LR, au Front National, enfin au Rassemblement National y compris, il y a une ligne de fracture entre détenants d'une PMA pour toutes.
Ça divise toutes les familles.
Et ça divise toutes les familles politiques. Y compris chez LREM où certains et certaines s'opposent. Donc on voit bien que le débat il n'est pas seulement entre partis, à l'intérieur même.
Yasmina Jaffar, je reviens sur les propos de la ministre qui explique qu'il n'y a pas de droit à l'enfant, mais nous sommes en train de passer d'une impossibilité médicale, c'était l'infertilité, à quelque chose de plus large, quasiment une revendication sociale, c'est-à-dire pouvoir disposer, obtenir des enfants pour toutes et pour tous. Donc quelque part, on change de registre. Est-ce qu'il n'y a pas derrière là, quelque part, un droit à l'enfant déguisé?
C'est un débat extrêmement technique et porté par trois personnalités, trois femmes très, très techniques aussi. Il faut
c'est
en
plus
effet.
Que technique.
Oui, il y a de la philosophie et il y a un changement de paradigme et de vision de famille et de façon qu'on a de voir nos familles. Mais j'ai interviewé pour La Ruche Média Isabelle Laurence qui est cofondatrice de Maman Solo, qui a une petite fille qui s'appelle Charlotte, qui a 4 ans, qui est née avec cette voix PMA. Et je me posais des questions et c'est très compliqué d'avoir un avis, d'être pour ou contre pour ce, ou pas la PMA. Et en effet, c'est pas évident parce qu'on entend souvent, oui, mais des familles ont déjà une absence de père. Là, ça n'est pas la même chose. C'est un père plutôt dans le néant. Il n'y en a pas. Donc ça crée peut-être quelque chose d'assez compliqué dans la représentation que peut avoir l'enfant de son père.
Mais c'est une idée qui vous trouble ?
Oui, ça porte à réflexion. J'ai beaucoup discuté avec Isabelle et j'avais besoin de discuter parce que c'était un débat technique, en même temps qui regroupe, comme on l'a dit tout à l'heure, un rapport philosophique et éthique. Et on peut pas y aller comme ça en disant je suis pour, je suis contre,
ou faire les
non modernes comme la droite parfois peut tomber dans ce piège de la non modernité en étant tout simplement réactionnaire. Il faut penser aux enfants, penser aux familles et se dire aussi que dans le monde entier.
Il s'agit pas seulement d'être à la mode.
Voilà, il faut pas être à la mode, mais c'est une avancée tellement importante qu'il faut que ça.
On voit souvent la droite à la non-modernité.
Je pense que c'est inévitable. On est dans une société où tout évolue, où les rôles sont complètement mélangés. Il y a l'évolution de la société, il y a l'évolution de la sexualité, il y a l'évolution de la liberté sexuelle. Qu'on le veuille ou non, c'est dans le sens de l'histoire. Regardez en 60 ans comme la société a changé. Le rôle des femmes, les divorces, les femmes qui sont les familles monoparentales. Donc tout change à une vitesse extrême. Et moi, je pense que le débat doit être posé très sereinement. Il faut débattre aussi avec les religieux qui ont leur éthique, qui ont le droit aussi à la parole. Donc il faut que je suis juste un peu choquée, effectivement, que cet hémicycle soit clairsemé, parce que le sujet est très important.
Ce débat aurait dû faire le plein.
Oui, mais pas seulement sur la PMA, mais aussi sur le génome. Et quand on voit, par exemple, aux États-Unis ou en Chine, les Chinois travaillent sur le génome pour avoir des enfants parfaits, pour détecter les maladies préexistantes. Donc bientôt, on fait déjà des enfants sur catalogue, mais bientôt, on pourra dire, bah voilà, je veux quand même mon enfant ait un QI extraordinaire. Bref, des enfants parfaits. Donc l'idée du génome, même le clonage, qui est pour l'instant complètement tabou, etc., les Chinois et les Américains travaillent dessus. Donc je trouve que c'est...
En tout cas, oui.
Je trouve ça dommage que la France soit là dans son petit débat politicien.
C'est un petit débat politique. Dans le texte, il y a deux choses qui sont très importantes. C'est les origines, la recherche des origines. Ça, je trouve ça très intéressant et important parce que ça permet de poser les choses et de savoir que l'enfant pourra faire connaissance de son père un jour si le père le souhaite. Et les tests génétiques transparents.
Parce que le père peut avoir une importance. Quoi. Enfin, c'est assez drôle de donner la possibilité aux enfants.
Jusqu'à présent, ça n'est pas possible.